C'est tout un message qu'on a entendu tantôt. Ça, c'était très important de faire attention à ça, de réfléchir à ça. Comme Bernard l'a dit, il a été des années, 30 ans? 34 ans. Moi, je l'ai connu dans les années 85. J'avais une classe d'école du dimanche à Gatineau. Il était dans ma classe. Je ne me suis jamais aperçu qu'il n'était pas sauvé. Personne alentour de lui. Peut-être sa femme avait des doutes à un moment donné. Mais, à part de ça, et là, à un moment donné, l'Esprit-Saint est venu, il t'a petit collier, là. « Hey, Bernard, quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. » Moi, le 19 juillet 1951, j'étais pas là. Le 20 juillet, je suis nous au monde. C'est ça, juste faire le parallèle, là. Il y a un avant et un après. Quand je suis né de nouveau, en 1980, il y a eu un avant et un après. Il y avait quelque chose de changé. Je ne peux pas dire, là, par exemple, que je généralise, là, parce qu'il y a quelqu'un, là, mettons, d'une deuxième génération, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Là. Ils grandissent dans une vie chrétienne. Mais pour moi qui étais, grand, en tout cas, dans le contexte où j'ai grandi, là, puis la vie que je venais, il y a eu vraiment un avant et un après. Fait que c'est important. Puis je pense que dans... On va regarder une église ce matin, l'église de Laodicée. Je pense que dans cette église-là, il y a beaucoup de personnes qui ont passé par les mêmes cheminements que Bernard. Il était là physiquement, mais spirituellement, en tout cas, je ne peux pas parler de toute l'Église, mais une bonne partie d'Église. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a commencé à regarder les Églises de l'Apocalypse que Jésus avait demandé à Jean d'écrire. Puis la dernière qu'on avait regardée, c'est l'Église de Philadelphie, l'Église de l'amitié, l'Église de l'amour. Et après avoir demandé à son serviteur Jean d'écrire cette lettre-là, le Seigneur Jésus demande maintenant d'écrire la dernière lettre à la dernière église qui se trouvait sur cette route-là. On avait vu qu'en partant de l'île de Patmos, en s'en allant sur la côte, c'était Éphèse, ensuite, il y avait tout un cheminement, là, et là, la dernière église était là. Mais avant d'aller la voir, on va se courber dans le Seigneur. Père éternel, je te remercie parce que tu es vivant encore aujourd'hui. Que tu sauves encore de la même façon. Tu viens dans nos cœurs par ton Esprit Saint, tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement. Le jugement que tu as préparé d'avance, la justice que tu as préparée d'avance. Et c'est toi qui nous donnes cette foi-là qu'on puisse saisir Jésus-Christ, comme lui nous saisit. Et moi, je veux te remercier aussi pour ta parole qui essaie de nous faire comprendre, en tout cas, qui nous fait comprendre par ta parole et par ton esprit qui agit en nous, ton plan, avec des expériences de d'autres églises, avec des expériences de d'autres personnes, comment tu as agi dans le passé avec de telles circonstances, mais aussi avec des ordres aussi, des conseils, des promesses, des récompenses que tu nous donnes. Et ce matin, je vais te demander que ce soit toi vraiment qui, encore une fois. Parce que oui, j'ai bien essayé de travailler un message, mais si tu n'es pas là, dans notre cœur, pour le faire comprendre, ça va tomber direct au bout de la chair aussi. Il n'y a rien qui va se passer dans nos vies. Et je veux me remettre à toi. Amen. L'Église à Laodicée, on la trouve dans Apocalypse, chapitre 3. Des versets 14. Et là, il dit, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, mais je sais aussi que tu es ni froid ni bouillant. Et puisque tu es froid ou bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et que je n'ai pas besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et comme on a vu, il dit au chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait regardé la première lettre, la lettre écrite à Éphèse, on avait vu de qui Jésus parlait lorsqu'il parlait des anges de l'Église. Et selon la définition du nouveau dictionnaire biblique, un ange, c'est un envoyé, un messager. Généralement, c'est un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, pour l'envoyer faire une mission. Ici, ce serait plutôt un envoyé de l'Église, un messager de l'Église, un porte-parole, on pourrait dire, qui avait envoyé à l'île de Patmos pour prendre des nouvelles de gens, on ne sait pas exactement. Mais c'est en même temps, c'est comme un représentant, c'est comme une personnification de chaque Église aussi, parce que les compliments que Jésus fait à l'Église, les reproches que Jésus fait à l'Église, il les fait directement à son ange, à son envoyé. La ville de Laodicée, elle, était située à environ 60 km d'Éphèse. Il restait 60 km à faire pour retourner sur son chemin. 15 km de Colosse. Ce qui veut dire, comme je viens de dire, que le porteur de la lettre, après avoir déposé sa lettre, pouvait continuer son chemin sur la même route, puis retrouver la première ville qu'il avait visitée. Mais Laodicée, c'était aussi un centre commercial qui était particulièrement réputé pour son industrie de textile, c'est-à-dire. Ça a l'air qu'il faisait des très beaux tapis, des très beaux vêtements, puis c'était confectionné avec la laine de Phrygie, qui se trouvait être la laine de mouton noir, là, un noir pur, qui était très recherché, très convoité, très belle aussi. Il y avait aussi dans cette ville une source d'eau qui avait des propriétés médicinales. Et beaucoup de gens qui avaient des malaises, en tout cas, ils allaient là, puis ils se baignaient là-dedans, puis supposément que ça lui faisait du bien. Laodicée aussi jouissait d'une réputation qui était répandue grâce à son école de médecine. On soignait particulièrement les yeux. Les oculistes appliquaient un genre d'onguent ou un collier qu'ils appelaient un collier spécial, qui était fabriqué à l'aide de poudre nommée bombe de chirurgie. Et aussi, la Odyssée était une ville extrêmement riche, puis célèbre par ses opérations bancaires. On pouvait lire sur les murs, ça a tout l'air, des inscriptions, et dans ces inscriptions, on lisait « Par ma force ». C'est une ville orgueilleuse, fière d'elle-même, qui comptait uniquement sur sa propre force. On pouvait dire aussi qu'elle était autosuffisante. Elle n'avait pas besoin de personne. Puis tout ça, ça a un rapport avec ce que Jésus va leur dire. Il va prendre des indices dans ça pour enseigner l'Église de Colosse. Puis comme au début de chaque lettre qu'on a vue, Jésus va se présenter à nouveau sur un aspect différent. Et là, après avoir demandé à Jean d'écrire, il va se présenter au verset 14 en disant, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Puis l'expression « Amen », c'est la même expression qu'utilisait Jésus lorsqu'il disait « en vérité, je vous le dis. » C'est ça que je veux. C'est ça que, en vérité, là, c'est « Amen ». Je suis l'Amen, je suis la vérité. Jésus, c'est la vérité. Ce n'est pas une des vérités, mais c'est la vérité. Il est aussi le fidèle. C'est ce qu'on avait vu aussi au chapitre 1, verset 5. Puis là, ça suggère une personne qui est fiable, qui est véritable, qui n'a pas de fraude en lui-même. C'est aussi ce que dit Pierre dans 1 Pierre 4, 22. On lit lui, en parlant de Jésus, qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc, on peut avoir une entière confiance en ce qu'il dit, puis en ce qu'il promet aussi. Parce que c'est lui, en réalité, qui accomplit toutes les promesses de Dieu, qui accomplit toutes les promesses divines, puis qui démontre que Dieu est réellement vrai. Et là, il se présente aussi comme le principe ou l'origine de la création. Pourtant, quand on regarde dans Genèse 1:1, on lit bien que c'est Dieu qui, au commencement, a fondé les cieux et la terre. Et là, on voit que c'est Jésus-Christ qui est l'origine de la création. Mais on peut certainement relier ce verset avec l'Évangile de Jean, au chapitre 1 aussi, qui dit qu'au commencement, la parole était Dieu. Non, elle était avec Dieu. Mais plus que ça, elle était Dieu. Et même qu'elle était Dieu et qu'en lui, rien n'a été fait sans elle. Et tout a été fait par elle. Même que Paul, dans Colossiens 1,15, affirme que Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Puis là, en continuant, il redit un peu la même chose que Jean à propos de la création. Il dit, c'est-à-dire qu'en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs. Tout a été créé par lui. C'est ça, ça veut dire que moi, là, j'ai été créé par lui, là. Puis vous autres, tous, vous avez été créés par lui. On a été créés par lui pour notre bon plaisir. Non? Non, il dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Je n'ai pas été créé pour moi, je n'ai pas été créé pour vous autres, vous n'avez pas été créé pour moi non plus. On a été créé pour lui. Ça, je pense qu'on oublie ça souvent. Moi, j'ai mes projets. J'en ai souvent à voir ça. On dirait que j'oublie des fois que j'ai été créé pour lui. Mais je fais ma petite vie, moi. Mais si on va un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et 22. Au chapitre 21, verset 5, on peut lire, « Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Mais c'est qui ça, celui qui est assis sur le trône? C'est Dieu, hein? Puis là, on continue à lire, il dit, « Écris ces paroles, sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Ça, c'est Dieu qui est assis sur le trône, puis il a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Maintenant, si on regarde un peu plus loin, chapitre 22, verset 12, on peut lire, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est qui qu'on attend bientôt? Jésus-Christ, hein? C'est Jésus-Christ qui va nous apporter notre rétribution selon nos œuvres. C'est le même aussi qui, au verset 13, dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Mais on parle de qui, là? Les deux. Hein? C'est le même. Mais c'est le même. C'est le même Dieu. Deux personnes différentes. Mais quand on regarde ça, c'est pas rassurant de voir ça. C'est pas intriguant aussi de voir notre Créateur, notre rémunérateur, notre Sauveur, qui en même temps, c'est celui qui est assis sur le trône, puis en même temps, c'est celui qui nous emmène notre tribulation. Celui qui règne. Lui, là, dans toutes ses occupations, il prend la peine de prendre un temps et d'écrire à son Église. Il nous écrit à nous, là, parce qu'on fait partie de son Église. Il nous écrit pour nous dire ce qu'il connaît de nous. Puis la première chose qu'il dit, connaître de l'Église de Laodicée, là, il n'a pas parlé encore de l'Église de Buckingham, mais ça va venir. On peut voir ça au verset 15, il dit, « Je connais tes œuvres. » Mais quand on regarde toute la lettre, on peut dire que c'est le seul point positif. Il y a des œuvres, ils ne sont pas à rien faire. Là. Ils font des choses. Mais comme on a déjà vu au sujet des œuvres, ça pourrait aussi vouloir dire, « Je connais tes activités. Je connais ce que tu fais. » Mais à ce moment-là, on peut pouvoir si ces œuvres-là, ces activités-là étaient bonnes ou mauvaises. On sait que le Seigneur est au courant. Mais en dehors des œuvres et des activités, là, on ne voit aucun compliment dans toute la lettre. Aucun point positif qui est mentionné. J'espère qu'avec la lettre qui est écrite à Buckingham, ça ne sera pas pareil. On va voir quelques points positifs. Puis là, Jésus continue en disant, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Fait qu'une chose qui n'est pas... Nous, on connaît ça. On a l'hiver, on a du froid. On a l'été, on a du chaud. Mais quelque chose qui est entre les deux, qui n'est pas froid, qui n'est pas bouillant, ça veut dire quoi? Il est tiède. Tiède, ça vous donne quelle sorte d'image, hein? Là, il y a certains commentateurs qui font remarquer que Jésus avait pris un exemple du fait que les eaux chaudes de la ville de Hierapolis, là, c'est une ville voisine, de Laodicée, était renommée pour avoir des eaux chaudes. Puis ces eaux chaudes-là avaient un effet thérapeutique. La ville, l'autre ville voisine, c'est la ville de Colosse. Elle était réputée pour avoir la bonne eau froide, l'eau courante. Là. Mais que la ville de Laodicée, elle, avait des problèmes en aqueduc, avait des problèmes en consommation d'alimentation d'eau parce que cette eau-là était acheminée avec sur des kilomètres de réseau d'aqueduc souterrain pour atteindre la ville. Fait que là, lorsque l'eau arrivait, l'eau était sale, était tiède. Et ensuite, il y avait une odeur de soufre. Je ne sais pas si vous avez déjà senti l'eau au cœur des bouleaux, avant de créer le système. Ça fait quoi, cette eau-là? Et là, ce serait cette raison-là pourquoi le Saint Jésus, il prend ça comme exemple. Fait que, on connaît tout ça, hein? La bonne eau froide, quand il fait chaud, là, on a travaillé un bon verre d'eau froide, ça rafraîchit. L'hiver, un bon café chaud, mais ça prend de l'eau chaude pour ça. Avez-vous déjà essayé de faire un café avec l'eau tiède? C'est pas vraiment bon. Juste de l'eau tiède même, là. Il y en a qui aiment ça, mais moi, en tout cas, en plus, avec cette senteur de souffle-là, là, ça donne... Non. C'est pas très bon. Ça donne un peu le goût de vomir, en tout cas. Et là, Jésus dit, bien, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, celui qui est bouillant, si on transfère ça dans un contexte spirituel, celui qui est bouillant, c'est celui qui est en vie, qui est plein de reconnaissance pour son Dieu, qui est plein de reconnaissance pour ce que Dieu a fait, qui est zélé pour l'Évangile, qui est fervent pour l'Évangile de Christ. Mais celui qui est froid, c'est le contraire. Lui ne veut rien savoir de l'Évangile. Et celui qui est tiède, par exemple, comprenez, il est entre les deux. Il est indifférent. On pourrait quasiment le comparer à un chrétien du dimanche. Avec les chrétiens, tout va bien. Mais quand il est avec d'autres, on ne peut pas vraiment voir la différence. On ne peut pas savoir s'il est chrétien ou pas. Moi, je me souviens que, dans plusieurs années, on suivait un jeune couple de croyants. On les avait emmenés, il y avait une activité dans une autre église. Fait qu'on les emmène là. Et puis, la jeune femme, elle a rencontré une autre jeune femme dans l'autre église. Ça faisait des années puis des années qu'elle se connaissait, qu'ils travaillaient ensemble. Mais c'est ce soir-là qu'elle a appris que cette femme-là était, là, j'ose pas dire chrétien, mais en tout cas, elle était religieuse. Elle est là. Elle était fidèle, je la connais. Elle était fidèle à son service, un peu comme Bernard y était. Il est connu dans le temps, il était fidèle, il était là. Mais comme il dit, là, on n'était pas dans sa tête, là. Ça ne paraissait pas dans son front. Lui, il savait. On peut dire que l'Église de l'Odyssée était une Église qui n'avait pas beaucoup de convictions. C'est certain qu'il y avait une certaine foi chrétienne, mais elle hésitait à renoncer à tout le mode de vie qui l'entourait, le mode de vie du monde. Et parce que cette Église-là avait ce genre de comportement, le Seigneur va lui mentionner qu'il va y avoir des conséquences assez sérieuses. Au verset 16, il dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et là, on peut voir ainsi que Dieu ne tolère pas et ne supporte pas la tiédeur de nos vies. Tout comme on pourrait dire l'eau tiède qui pouvait nous faire vomir, là, mais Jésus dit, je vais te vomir de ma bouche. Puis là, ce qu'il parle de vomir l'Église de sa bouche, ce serait, moi, dans ma tête, là, bien, pas dans ma tête, mais il me semble, je fais le rapport avec la conséquence de l'Église d'Éphèse quand Dieu parlait d'enlever son chandelier, sa place. Parce que tu as perdu ton premier amour, si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier. Ici, si tu ne te repens pas, je vais te vomir de ma bouche. Et on voit aussi que l'Église préfère une Église bouillante. Une Église bouillante, pour lui, enthousiasme, rempli de connaissances, reconnaissance, c'est-à-dire, pour tout ce qu'il fait. Mais il préfère même une Église qui est froide à une Église tiède, qui n'a pas de conviction. Il semble être d'accord avec tout, qui fait des compromis, mais qui prend à la légère la raison pour laquelle Dieu l'a sauvé. C'est quelqu'un qui n'a pas de colonne. Là, on parle d'une église, on ne parle pas d'une personne, mais quand on sait qu'une église, c'est composé de personnes. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est froid ou qu'on est bouillant. Et là, dans ce cas-là, qui était tiède. On pourrait même parler de quelqu'un qui frôle avec l'hypocrisie, là, ou qui se fait accraire des mensonges, qui pense qu'il est sauvé puis qu'il ne l'est pas. Et là, on peut voir la raison un peu de sa tiédeur au verset 17. Où le Seigneur leur dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. » C'est là que provient sa tiédeur. Il est indépendant. Il n'a pas besoin de Dieu. Il est autosuffisant. Comme la ville était autosuffisante, lui, il n'a pas besoin. Bon, là, on parle de l'Église. Là. Je veux pas, mais comme j'ai dit tantôt, l'Église est composée de personnes. Fait que, pas besoin de personne. L'Église a un beau compte en banque. On n'a pas à peine d'aller quêter ailleurs. On est autosuffisant. Puis on pourrait penser de ça. Là. C'est vrai que la ville de Laodicée était une ville riche. Là. Que l'Église a pu profiter de cette richesse-là parce que ses membres auraient dû être riches aussi. Mais spirituellement, il était pauvre. Puis par son comportement, on voit que l'Église avait complètement déclaré son indépendance à Dieu. Elle était devenue, elle aussi, autosuffisante. Elle avait tout ce qu'il fallait. Il n'avait besoin, n'avait pas besoin de Dieu. Mais là, on ne parle pas juste non plus d'argent. Là. On parle de tout. Lorsqu'on va devant Dieu, là, moi, c'est rarement que je vais lui parler d'argent, mais j'ai plein de besoins. Mais si je n'ai pas besoin de Dieu, bien, je n'irai pas devant Dieu. Je suis capable de m'arranger moi-même. Je suis assez fort, je suis assez débrouillard, je vais lui faire mes affaires. On peut penser que c'était l'attitude de cette église-là. Là. Et comme on a vu tantôt, dans cette ville-là, il y avait aussi une manufacture d'habits, une manufacture de vêtements de qualité, de haute qualité. Là. Pourtant, Jésus déclare que l'Église était nue. Pourquoi qu'elle était nue? Parce qu'elle n'avait pas recouvert la robe qui lui avait été offerte, qui avait été fournie gratuitement par le sacrifice de Christ. On a vu aussi que l'Église de Laodicée, que la ville de Laodicée, c'est-à-dire, il y avait des bons oculistes, puis il éloignait ceux qui avaient des maladies des yeux. Pourtant, encore là, Jésus va le mentionner qu'elle était aveugle, parce qu'elle n'était pas capable de voir dans quel état lamentable elle se trouvait. Leur abondance matérielle les avait complètement aveuglés. Et parce qu'elle était à l'aise matériellement, elle ne pouvait pas voir son besoin spirituel. Probablement qu'elle se disait, « Ben écoute, là, tout cet argent-là vient de Dieu. Donc, si Dieu m'a béni tant que ça, c'est parce qu'il m'approuve là, dans ce que je fais. » mais n'était pas capable de voir son état spirituel. Et se croyant riche spirituellement que matériellement, elle était rendue même à tenir les mêmes discours que leurs concitoyens. Et parce que tu es, c'est ça que j'ai dû leur dire, parce que tu n'es pas, que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. C'est tout un constat que Dieu fait de cette Église-là. Tu es misérable, malheureux, aveugle et nu. Mais malgré que le Seigneur Jésus voit tout ça, là, on pourrait dire qu'il ne baisse pas les bras. Puis là, il veut leur donner un conseil. Il aurait pu, lui, il avait toute autorité de les reprendre. Puis on pourrait dire de leur ordonner de faire sa volonté. Mais il ne veut pas leur imposer. Il veut que l'Église prenne le choix de le suivre. Au verset 18, il leur dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Là, il s'agit d'une toute autre sorte de richesse. On pourrait dire que dans cette ville riche, c'est comme si Jésus là, se comparait à un marchand, mais là, qui veut leur vendre, lui. Il ne veut pas acheter des autres, il veut le vendre. Puis là, il veut leur offrir de l'or éprouvé par le feu. Un or que le feu a purifié. Parce que l'or qu'il y avait dans la ville, que les gens de l'Église possédaient, ne les avait pas rendus riches. Ils étaient quand même demeurés spirituellement pauvres. Et là, c'est pour ça que Jésus leur offrait de l'or qui a une valeur éternelle. Puis là, il leur dit, là, afin qu'ils deviennent riches. Afin qu'ils deviennent riches pour Dieu. Pas riches sur la terre, mais riches pour Dieu. Jésus leur conseille aussi d'acheter de lui des vêtements blancs, purifiés par lui, pour remplacer les vêtements de laine noire, faisaient leur réputation, mais qui n'étaient pas capables de couvrir leur nudité spirituelle. Aux yeux de Christ, même s'il avait le plus beau vêtement, il était nu spirituellement. Et encore là, la raison que Jésus leur donne, c'est afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour loin de tes yeux afin que tu vois la vérité. Jésus leur conseille d'acheter, mais en réalité, c'est une manière de parler parce que tout ce qu'il leur offre, il leur offre gratuitement. Cet or qui est éprouvé par le feu, les vêtements blancs qui ont été lavés, on pourrait dire, dans le sang de l'agneau, c'est gratuit, ça. On ne peut pas acheter ça avec nos biens matériels. On ne peut pas acheter ça avec de l'or ou de l'argent. Et là, il dit, « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. » Donc, si, des fois, on a l'impression que le Seigneur nous châtie ou qu'il nous reprend, mais encourageons-nous, c'est parce que Dieu nous aime. Il veut nous montrer qu'on est sur une mauvaise voie. Il veut qu'on change de voie. Et là, il continue, il dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. » On pourrait dire, détourne-toi de ta tiédeur. Ça fait des années là, que tu marches, là, que tu dis que tu marches avec moi, mais tu es tiède, tu n'as pas d'enthousiasme pour moi. Détourne-toi. Repends-toi. Et c'est là qu'il va leur dire au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et ça, c'est un verset qu'on voit souvent dans des traités d'évangélisation. Et là, qui nous montre que Jésus frappe à la porte de notre cœur. Puis dans les traités, on nous dit que bien, la poignée de la porte de notre cœur est à l'intérieur, donc on ne peut pas. Lui, il ne peut pas la forcer. Mais si on regarde bien ce que dit notre passage, là, Jésus, ce n'est pas dit qu'il frappe à la porte du cœur, mais plutôt qu'il frappe à la porte de l'Église à Laodicée. Parce qu'à l'Église à Laodicée, Jésus est dehors. Il n'est pas en dedans. Il est dehors. Puis là, il frappe. Mais il y a plusieurs personnes en dedans. Mais là, il dit, s'il y a quelqu'un qui entend ma voix en dedans, là, le Seigneur lance une invitation à chacun. Là, il est dehors. Il y a plein de monde en dedans. Lui, il frappe à la porte. Y a-t-il quelqu'un en dedans qui va entendre ma voix? À l'intérieur de l'Assemblée? Si quelqu'un entend ma voix, et j'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, puis lui avec moi. Ça, ça laisse quoi, je vous entendre? Un souper, un bon souper ensemble, qui laisse entendre le repas du soir, un peu à l'image de la Sainte Cène, qui était avec ses disciples, qui ont soupé ensemble. Hein? De même, après avoir soupé, il prit un repas qui est propice à une communion fraternelle. Le Seigneur n'entrera pas de force. Il va frapper, il va entendre. Puis partager un repas ensemble, là, c'est aussi un signe d'intimité entre deux personnes. C'est ça que le Seigneur veut avec tous ses disciples, avoir une intimité avec lui, qu'on puisse le connaître son Père, puis connaître lui. Mais là, il fait aussi une promesse. Hein? Au verset 21, il dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ce qui veut dire que le Seigneur a encore de l'espoir pour cette Église-là. Parce qu'il y en a qui vont vaincre, il y en a qui vont avoir ouvert la porte, puis il y en a qui vont avoir été soupés avec lui, puis qui vont vaincre. Puis il termine, comme à l'habitude, Jésus, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. » Ce que l'Esprit dit sur l'Église. Puis comme on a vu, lorsqu'on a entrepris de regarder les sept églises, on a vu qu'elles représentaient l'ensemble des églises de tous les temps. Et entre autres, l'Église de Bokiyam pourrait s'identifier à plusieurs de ces églises-là, sur plusieurs points, soit négatifs, soit positifs, puis retenir les leçons que le Seigneur nous a données dans ces églises-là. Mais pour ce qui est de l'Église de la Odyssée, comment peut-on voir les différences et les ressemblances? C'est en se posant des questions sur notre Église, oui, mais sur nous-mêmes. Quelle est notre température? Sommes-nous bouillants? Sommes-nous froids? Sommes-nous tièdes? Qu'est-ce que nos activités démontrent là-dedans? Qu'est-ce que nos œuvres démontrent dans tout ça? Est-ce qu'on voit clair devant Dieu? Est-ce qu'on voit clair? Est-ce qu'on a nos yeux? Ils sont en bon état pour regarder notre état spirituel. Sommes-nous revêtus de la robe blanche qui nous a été fournie gratuitement par l'agneau? Et faisons-nous partie des vainqueurs qui vont être un jour assis sur le trône avec Dieu? Ça, c'est toutes des questions que chacun de nous doit se poser pour qu'éventuellement, collectivement, on arrive à une conclusion. Mais maintenant, on va prendre un temps pour nous souvenir aussi. On va se souvenir de la façon dont le Seigneur a pourvu afin de nous procurer cette robe blanche-là que nous avions besoin de nous procurer cette collyre-là pour nos yeux. Cette robe blanche-là qui a remplacé notre robe noire, sale puis déchirée par le péché. Vous savez ce qui empêche l'être humain d'être en communion avec Dieu? C'est le péché. Parce que Dieu n'est pas capable, il est trop peu pour être en communion avec un être pécheur. Et ça, la Bible dit de cet état-là que le salaire du péché, que le salaire que nous apporte le péché, c'est la mort. La mort éventuellement physique, puis là, on la voit régulièrement alentour de nous, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses, mais dans nos familles, il y a des maladies. La mort, spirituellement, c'est physique, mais premièrement, la mort est spirituelle. Ce qui veut dire que l'être humain, au départ, se trouve être séparé de Dieu et mort spirituellement. Il ne peut pas être en communion avec son Créateur. Puis cette mort-là, c'est une mort éternelle. Donc, je peux moi-même, mettons, payer la mort, mais il n'y aura pas de fin. Ça va aller jusque... Je ne peux pas dire, ah, j'ai fini ma dette, là. Fini. Non, c'est éternel. Ça prend quelqu'un qui va payer à ma place. Mais qui peut payer à ma place? Certainement pas vous autres. Vous êtes pris de la même maladie que moi. Ça prend quelqu'un qui n'a pas de péché pour payer ma dette de mon péché. Fait que là, on pourrait penser à un ange. Un ange, il n'a pas de péché. Ouais, mais il n'a pas de nature humaine non plus. Fait qu'il ne peut pas payer pour ma nature humaine. Son péché, il n'a pas. Donc, ce n'est pas sa nature humaine qui a péché. Tout un problème, là. Mais il y a aussi Dieu qui n'a pas de péché. Qui, lui, pourrait payer pour ma nature humaine. Mais lui non plus, il n'a pas de nature humaine. Il ne peut pas mourir. Mais c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Par amour pour nous autres, son Fils Jésus-Christ s'est incarné. Il a pris un corps humain, il a vécu comme un humain. Dans Jean 3,16, ça dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a tout accompli la loi qu'on n'était pas capable d'accomplir. Tout accompli. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'accomplir la loi. Il y a juste 10 commandements. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y en a juste 10. Juste 10. Mais moi, le premier que j'ai buté dessus, là, c'est le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tes pensées. Je ne l'ai jamais fait. Juste là, j'étais condamné. Puis les autres, je ne les ai pas toutes. Je ne pense pas de les avoir toutes transgressées, mais juste un me séparait de Dieu pour l'éternité. Christ les a toutes accomplies. Mais en plus, il a payé mon salaire pour les péchés que j'avais faits, ceux que j'avais transgressés, là, que j'avais mérité la mort, ben dit, je vais mourir à ta place. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Merci Seigneur. Grâce infinie. C'est de ça. C'est de sa mort qu'on se souvient quand on prend le repas du Seigneur. Si on regarderait, là, si on prendrait le temps là, de regarder les évangiles, tout ce qu'il a subi avant d'en arriver là, les flagellations, les crachats, la couronne d'épines, les moqueries, les clous, la souffrance. Puis là, ils l'ont crucifié. Il est mort. Puis juste avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Je l'ai tout fait à votre place. Ayez confiance en moi. C'est ça, je vous demande, juste ça. C'est un peu ça aussi que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 11. Et là, je vais inviter Denis et Jean-Claude.